Calade sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade ma radio pour une nouvelle chronique historique, Nuances du monde. Je vous propose de remonter le temps et de revenir au 14 mai 1610. Une voiture royale, une ruelle encombrée, un homme seul armé d'un couteau. Deux coups et Paris s'arrête. Henri IV, le bon roi Henri est mort. Aujourd'hui, dans cette chronique, nous plongeons dans l'un des événements les plus marquants et les plus traumatisants de l'histoire de France. L'assassinat d'Henri IV par François Ravaillac. Un acte de sang, au nom de Dieu. Mais aussi le dernier épisode d'un long siècle de troubles, ravagé par les guerres de religion, hanté par une question qui brûle encore les lèvres des contemporains. Un roi peut-il être tué s'il est jugé tyrannique, injuste ou simplement dangereux pour l'ordre du monde? Tout commence un après-midi de printemps à Paris. Le roi Henri IV, sans grande escorte, imprudence fatale, quitte le Louvre pour s'en rendre à l'Arsenal. Il veut retrouver son ministre, l'infatigable Sully, pour une réunion sur des affaires d'État. Mais sur le trajet, au niveau de la rue de la Ferronnerie, un bouchon inattendu bloque le passage. Une charrette chargée de tonneaux, un coche de foin, rien ne bouge. La voiture royale est coincée. Et là, le piège se referme. Un homme surgit de la foule. Il n'a rien d'un soldat. Il est maigre, discret, vêtu simplement. Il s'appelle François Ravaillac. Il a 32 ans et vient d'Angoulême. C'est un illuminé, un mystique solitaire, obsédé par les visions religieuses. Il approche de la voiture, pousse un bras à travers la portière entrouverte et frappe. Une fois, Henri crie. Une deuxième fois, la lame transperce le cœur. Il est 16h. Henri IV agonise. À 17h, il est mort. Le choc est immense, un séisme pour Paris, pour la France, pour l'Europe. Les boutiques ferment, le peuple, abasourdi, pleure. Le bon roi Henri, celui qui avait rétabli la paix après 40 ans de guerre civile, est tombé. Mais un phénomène étrange se produit. Pas de panique, pas d'émeute. Le deuil est digne, silencieux, presque solennel. On prie pour l'âme du roi défunt, pour le petit dauphin, Louis XIII, âgé de seulement 9 ans, pour que le royaume ne s'effondre pas dans le chaos. Et le soir même, Marie de Médicis, veuve éplorée mais femme de pouvoir, est proclamée régente. Le pouvoir continue. La monarchie tient, par miracle, par habitude ou par instinct de survie. Et Ravaillac, on l'arrête immédiatement. Il ne tente même pas de fuir, comme s'il voulait être pris, comme s'il assumait tout. Pendant 3 jours, on le torture, on lui brûle les chairs, on lui arrache la peau. On veut des noms, des complices, mais il n'en a pas. Ou ne les nomme pas. Il répète inlassablement dans un état de transe. « Il n'y a que moi qui l'ai fait, j'ai agi seul. » Le 27 mai, la sentence tombe. Régicide, crime suprême, crime contre Dieu, crime contre l'humanité monarchique. Et la punition est à la mesure du sacrilège. Tenaille chauffée à blanc, fonte versée dans les plaies, écartèlement par 4 chevaux jusqu'à ce que le corps se déchire, se disloque, s'effondre. Puis le feu, puis les cendres jetées au vent. Mais certains en ramassent, des morceaux de chair, de tissu, des reliques, même des enfants. Pourquoi une telle violence? Pourquoi ce délire collectif? Parce que l'acte de Ravaillac est plus qu'un meurtre, c'est le reflet d'un siècle entier, traversé de passion, de haine, de peur religieuse. Car avant lui, un autre roi est tombé sous les coups d'un fanatique, Henri III, poignardé en 1589 par le moine Jacques Clément. Et encore avant, il y avait eu la Saint-Barthélemy, en août 1572. À Paris, dans toute la France, des milliers de protestants, hommes, femmes, enfants, sont massacrés. Le sang coule à flot et le roi Charles IX lui-même l'approuve. Il ordonne, il cautionne. Ce jour-là, une ligne rouge est franchie. Le roi ne protège plus. Il devient bourreau. La monarchie perd son aura sacrée. Elle devient politique, mortelle et contestable. Alors une idée germe. D'abord dans les milieux protestants, puis dans certains cercles catholiques extrêmes. Une idée folle, mais qui a sa logique. Si un roi trahit sa mission, s'il opprime son peuple, s'il menace la vraie foi, alors on peut lui désobéir. Le renverser, le tuer. C'est ce qu'on appelle la culture régicide. Des penseurs qu'on appellera ensuite des monarchomaques, comme Théodore de Bèze, François Hotman ou Duplessis Mornay, défendent une théorie nouvelle, révolutionnaire. Le roi n'est pas au-dessus des lois. Il est lié au peuple par un contrat, un pacte. Et s'il rompt ce pacte, il devient tyran. Et un tyran peut être éliminé. Ravaillac, lui, est un catholique fanatique. Mais il est aussi le produit de ce climat mental, de cette fracture entre pouvoir et foi, entre sacré et politique. Il croit qu'Henri IV va trahir l'Église. Il croit que le roi, malgré sa conversion au catholicisme, est resté protestant dans l'âme. Il croit qu'il s'apprête à attaquer le pape, à relancer la guerre contre l'Espagne catholique. Il croit surtout que l'édit de Nantes, qui en 1598 a accordé la liberté de culte aux protestants, est une trahison. Alors il frappe et il dit « J'ai tué pour Dieu ». Mais ce n'est pas simplement un acte de foi, c'est un acte politique, un signal, un basculement. La monarchie de droit divin chancelle. Le roi n'est plus intouchable, il devient une cible. Et derrière l'acte de Ravaillac, il y a une foule silencieuse. Comme le dit l'historien Roland Mounier, Ravaillac a agi, mais des milliers d'autres en silence le comprenaient. Alors, que nous reste-t-il plus de 4 siècles après ? Une leçon troublante. La légitimité d'un pouvoir ne repose jamais uniquement sur la force ou la tradition. Elle repose sur un contrat invisible, fragile, entre autorité, justice et croyances. Et quand ce contrat est rompu, les couteaux peuvent surgir, même dans les mains d'un seul homme.
Calade, ma radio, sur le 100.9 et radio-calade.fr.